Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est Julie Gerbet du podcast À Poil et avant d'écouter votre épisode, j'aimerais partager avec vous, mes chers auditeurs, restaurateurs, entrepreneurs, dont l'emploi du temps est millimétré et les finances mises à mal par l'inflation, ma découverte d'une solution assez idéale, je dois dire, en cas de besoin express de cash. Lancée par BPI France, la banque d'investissement française soutenue par l'État, les prêts flash permettent d'emprunter en deux temps trois mouvements, en ligne et sans paperasse superflue, jusqu'à 75 000 euros, avec un déblocage des fonds en 7 jours. Rénovation énergétique, innovation, développement marketing ou renfort de trésorerie, tous les besoins sont bons. Alors rendez-vous sur flash.bpifrance.fr.
Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir...
Bonjour et bienvenue dans À Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet, la créatrice et hôte de ce podcast, et aujourd'hui j'ai la grande joie d'interviewer Kamal Mouzawak.
Quand je vois des gens de différentes régions, religions et origines se retrouver dans un marché fermier tous les samedis matins et ne même pas se demander quelle est ta religion, quelle est ton origine, quelle est la différence, mais se dire « Ah, mais on est tous les deux travailleurs l'un comme l'autre. Moi, je me lève à 4 heures du matin, je fais de la patate. Toi, tu te lèves à 3 heures du matin, tu fais de la tomate ou de la confiture et je ne sais pas quoi. » Et c'est ça qui nous relie à nous tous. C'est la fierté de ce qu'on fait. C'est la fierté de ce que nous sommes et c'est la fierté de comment est-ce que je gagne ma vie, je suis indépendant financièrement, et comment est-ce que de jour en jour, je suis un homme meilleur, je suis une femme meilleure. Donc pour moi, j'ai toujours voulu changer le monde, je veux toujours changer le monde, faire un monde meilleur, et j'essaie de le faire, au lieu de le faire à travers des mots, comme on le fait maintenant, ce qui n'est pas évident, et je ne sais pas si je le fais bien, je me demande toujours, j'essaie de le faire à travers des façons très très simples, à te dire, voilà, ça c'est un plat de taboulé, viens déjeuner, ça c'est une manouché. La manouché raconte toute la montagne du Liban. C'est du thym sauvage qui pousse dans la montagne maintenant au printemps. C'est un peu de sumac, c'est du sel et c'est des graines de sésame. Et c'est de l'huile d'olive de nos oliviers millénaires. Et ça, ça te raconte ma tradition, mes racines et mon histoire beaucoup plus que n'importe quoi. Donc j'ai trouvé la cuisine comme une façon simple et facile et abordable de se rapprocher les uns les autres.
Kamal Mouzawak n'est pas un chef, plutôt un food activiste qui se sert de la cuisine comme d'un médium capable de répandre son message de paix. Faites des falafels, pas la guerre, titrait d'ailleurs le New York Times dans un long portrait qui lui était consacré, et c'est à cela qu'il s'attache depuis des années en développant ses différents projets, un marché de producteurs, des tables et des maisons, au Liban et bientôt à Paris. Ce touche-à-tout, ancien graphiste, se sert donc du pouvoir de la cuisine pour réunir les gens, les faire cuisiner et ou manger ensemble au-delà des confessions, des origines et des courants politiques, et tout en préservant les traditions ancestrales. Avec Kamal, nous avons parlé de rencontres, de cuisine familiale et de changer le monde. Le partenariat avec Elle à Table continue sur le site elle.fr où vous pouvez retrouver chaque nouvel épisode 48 heures avant sa sortie sur les plateformes habituelles. Et maintenant, bonne écoute. Bonjour Kamal.
Bonjour Julie.
Tu viens d'annoncer que tu arrivais à Paris, que tu allais exporter ton concept de marché-restauration libanaise dans le 3e arrondissement, mais ce n'est pas tout à fait sûr d'après ce que j'ai compris. Pourquoi est-ce que tu avais envie de t'installer à Paris ?
Quelle grande déclaration d'arriver à Paris, d'exporter un concept. J'ai peur, je n'ai plus les mots maintenant, je vais rougir, Julie. Pourquoi venir à Paris ? Parce que c'était l'évolution naturelle des choses, parce que je considère que l'idée de taoulé à Beyrouth et au Liban n'est pas une idée tout simplement libanaise. Taoulé, c'est la cuisine des femmes, c'est la cuisine de maman, c'est la cuisine traditionnelle, c'est la cuisine des régions. Et c'est une cuisine qui est perpétuée par les mamans, par les femmes. Et donc, c'est une expression sincère et authentique d'une tradition. Ce n'est pas une cuisine qui a été raffinée, travaillée, rafistolée par les chefs qui sont souvent des hommes. Donc c'est tout simplement ce qu'on mange à la maison et c'est ce qui raconte l'histoire de chacune des régions, c'est ce qui raconte l'histoire des gens, de leurs traditions, des saisons et de la terre où ils vivent. Donc c'est vraiment une expression sincère et authentique d'un lieu et des gens qui habitent ce lieu. Donc si on a pu faire ça au Liban, ça faisait depuis un moment que je voulais aussi avoir cette aventure en France parce que j'ai des relations personnelles avec la France, donc c'est pour ça que je voulais commencer ici avant ailleurs, mais moi j'aimerais bien aussi raconter moi-même ou que ça se fasse, mais connaître l'histoire de chaque lieu à travers sa cuisine. Parce qu'à mon avis, il n'y a rien qui raconte une histoire des racines comme la cuisine. Quand on parle des expressions de la tradition, ben, ce n'est pas le costume, toi et moi on est habillés pareil, ce n'est pas l'architecture, c'est l'architecture bien sûr, mais je ne peux pas porter l'architecture libanaise et venir la partager avec toi à Paris, ou vice versa par exemple, ce n'est pas la danse, c'est souvent folklorique, on n'arrive pas à comprendre ça, la chanson est aussi souvent folklorique, les autres n'arrivent pas à comprendre ça, par contre je peux tout simplement mettre une assiette de taboulé entre nous deux, c'est d'abord quelque chose qu'on va partager tous les deux, et c'est quelque chose que l'autre, qui n'est pas de cette tradition, peut accepter facilement. Donc pour toutes ces raisons-là, c'est pour ça que je voulais avoir une table à Paris. Donc comme je disais, l'idée c'était d'avoir une table avec les traditions françaises, les différentes régions et les différentes ethnographies qui font la France aujourd'hui. Mais je pense que c'est un grand projet à monter. Donc je me suis dit, au début, je vais commencer par ce que je sais faire. C'est une table du Liban, donc c'est la table libanaise. On commence avec ça et petit à petit, on va introduire les différentes régions de France, les différentes ethnographies qui font la France aujourd'hui.
Donc tu vas au
longue réponse, hein.
Ouais. Non mais et c'est vrai que ça fait du sens de le transposer avec les régions françaises. Au début, tu vas venir avec des femmes du Tolet à Beyrouth. Tu vas les faire venir pour faire découvrir ces régions.
C'est des femmes libanaises qui vont cuisiner au début et Taoulewi, je sais que c'est un problème de prononcer le mot, je suis désolé. Donc je sais que ça va souvent être toilette.
J'allais dire toilette, mais...
mais on s'est dit, bon, on va pas changer, c'est ça le nom, on va pas le changer, on va rigoler avec un toilette de temps en temps, un toilette de temps en temps. Et en fait, Julie, taoulé, ça veut dire tavola. C'est comme l'italien, c'est comme le français table, c'est tout simplement la table. C'est quand on pousse la porte de la maison, on est un petit enfant, tu es une petite fille, je suis un petit garçon. On arrive, on rentre à la cuisine, maman prépare le déjeuner à la cuisine et on lui demande qu'est-ce qu'il y a à manger aujourd'hui. Et on s'assied à la table de la cuisine pour manger à la table de la cuisine et pas dans la salle à manger. Et donc c'est ça le nom de ce lieu, c'est taoulé, c'est tavola, c'est table, c'est tout simplement ça. Donc oui, on commence avec des femmes libanaises, ça va être une équipe fixe ici. Au Liban, c'est une femme différente tous les jours, qui vient d'une région différente, bien sûr, parce que c'est le Liban. À Paris, ça va être une équipe de femmes fixes et des hommes aussi, mais c'est des femmes parce que les femmes ont une approche différente, maison et simple pour la cuisine. C'est la différence un peu entre ce qu'on appelle un chef et un cuisinier. Moi, je suis cuisinier, je ne suis pas chef. J'ai appris, c'est ma maman qui m'a appris. J'ai appris auprès d'autres gens, de femmes, d'hommes, donc à cuisiner. Et ce n'est pas une attitude de chef. Un chef dans une cuisine, c'est comme un chef d'entreprise. Donc, on a des performances, on a des coûts. C'est différent. Que ce soit un homme et une femme, c'est une attitude qui est complètement différente. On est derrière des étoiles ou des reconnaissances. Par contre, un cuisinier est tout simplement là et il veut faire plaisir aux gens qu'il nourrit.
Donc, comme à la maison.
Comme à la maison, c'est tout simplement ça. Donc, et c'est pas comme à la maison, au lieu de répéter ça comme à la de faire comme, on ne fait pas comme, c'est tout simplement les gens qui font cette cuisine, qui vont la refaire ici dans ce lieu, et au lieu de la faire pour deux personnes, pour un couple ou pour quatre personnes, pour une famille de quatre, on va le faire pour 50, 60 personnes. Donc, c'est tout à fait cette idée-là. C'est au lieu de reprendre encore une fois les préceptes et les lois du F&B, je ne sais pas comment on dit FNB en français,
de la restauration.
De la restauration professionnelle. Mmh. On se dit non, ben, vous savez quoi, on dort dans des lieux, on dort dans des maisons, ça n'a pas besoin d'être un hôtel, je ne vais pas copier l'hôtel à la maison, et on mange dans d'autres lieux, ça s'appelle la cuisine de la maison. Donc je vais prendre ce modèle-là et le transposer d'une façon un peu plus peut-être organisée, professionnelle, qui suit les normes et les règles. Bon, évidemment, il faut s'adapter un petit minimum, mais garder cette essence-là et ne pas faire semblant ou faire comme. Et je pense que ça, c'est un trait d'authenticité qui nous manque énormément ces temps-ci. Et c'est quelque chose que nous avons découvert avec la crise Covid dernièrement. Et se dire que, ah, c'est intéressant quand même la maison. Je peux manger, je peux recevoir des gens à la maison. C'est un environnement qu'on avait plus ou moins oublié, quoi. C'était tout simplement une chambre d'hôtel où on essayait d'être le moins de temps possible. Et là, on commence à découvrir autre chose. Comment dormir à la maison, comment manger à la maison, comment recevoir à la maison, donc une approche différente, que ce soit une maison de ville et beaucoup de maisons de campagne aujourd'hui aussi, où les gens recommencent à découvrir comment vivre chez soi, manger chez soi, habiter chez soi.
Et donc tu vas appliquer, appliquer en tout cas rechercher ce même genre de profil, enfin ces mêmes profils pour la cuisine régionale française. Tu vas pas chercher des chefs, mais des cuisiniers ou des cuisinières.
Au début, on va commencer avec la cuisine libanaise, mm-hmm. pour ne pas trop fausser les pistes. Ouais. C'est déjà un nouveau projet, il faut avoir une identité très claire et précise. Donc on va commencer avec la cuisine libanaise d'abord. C'est une équipe libanaise ou levantine qui va travailler dans cette cuisine-là. Ça va être comme à Beyrouth, donc ce n'est pas une carte. À la maison, il n'y a pas de carte, on ne choisit pas de la carte. C'est un buffet qu'on appelle la table libre, au lieu du mot buffet qui est un peu connoté pas bien, disons. Et donc, on arrive, on voit toute la nourriture qui est là et on se sert de ce qu'on a envie, ou c'est la cuisinière responsable qui va nous servir. Mais bon, on voit tout ce qui est là et on se sert comme on veut, quand on veut. Et le soir, ça va être un peu la même formule, mais avec une formule, on n'a pas envie de se lever pour se servir. Donc, on est assis, mais on a un peu cette table pleine, comme si on était à la maison et qu'on mangeait tous ensemble autour de plats à partager. Et bien sûr, pendant le week-end, il y a nos fameux brunchs du samedi et du dimanche, ce qu'on appelle le souk brunch. Donc, il y a ça d'abord. Et à côté de ça, on invite une cuisinière du Liban une fois par mois. Donc, c'est une fois par mois, on a une cuisinière star qui arrive du Liban. Et c'est la cuisine de Georgina pendant 5 jours pendant ce mois-ci. C'est la cuisine de Nada pendant 5 jours le mois prochain. Donc, il y a déjà ça. Et de temps en temps, une fois par mois, on va inviter des guest cooks, des guest chefs, des amis chefs ou des cuisinières maison. Donc ça va être un peu la note différente qui va être une exception une fois par mois, jusqu'à pouvoir connaître et intégrer de plus en plus la cuisine traditionnelle, simple et maison de la France et des différentes origines qui font la France aujourd'hui.
J'avais lu que t'allais ouvrir en février prochain, mais en fait ça peut être beaucoup plus rapide.
J'aurais espéré qu'on fasse sa discussion dans Taoul et Paris quand même, mais bon, ce n'est pas le cas. On est sur un lieu seulement aujourd'hui. Bien sûr, on a un problème encore d'extraction que nous n'avons pas réglé. J'espère que ce sera réglé et j'aime beaucoup ce lieu parce que ce n'est pas un restaurant, c'est un garage qu'on transforme en une épicerie, parce que ça va être un côté très important. C'est épicerie traiteur. Donc, c'est, en fin de compte, Taoul, c'est une cuisine. De cette cuisine-là, soit je peux prendre des choses à acheter, soit des choses à emporter, soit des choses à réchauffer chez moi, soit je peux manger sur place. Donc, c'est ça toute l'idée. En fin de compte, c'est une cuisine. C'est une cuisine où maman travaille et produit à manger avec son esprit et son cœur. Et cette bouffe, cette nourriture, je vais soit la mettre dans mon congélateur, au frigo, ou la réchauffer chez moi, ou la manger sur place. Donc c'est ça toute l'idée. Donc on est sur un lieu aujourd'hui, mais bon, comme tu connais mieux que moi les problèmes de permis, de copropriété et tout ça. Donc si on n'arrive pas à dépasser ce cap, j'espère bien qu'on pourra le dépasser. J'aime bien la rue, j'aime bien le quartier et j'aime beaucoup beaucoup l'espace qui est très atypique. C'est un garage carrément, c'est deux garages l'un à côté de l'autre. Et si on n'arrive pas à dépasser ça, on devrait regarder d'autres lieux et d'autres formules aussi pour commencer le plus tôt possible.
Qu'est-ce que représente la cuisine pour toi, Kamal? Vaste question.
Non, c'est pas une vaste question, c'est ce qui donne la vie. Tu bois un café, Julie, tu as bu un verre d'eau, tu manges un biscuit, tu vas manger des pâtes ce midi, et c'est ça qui nourrit ta vie. C'est un peu le bois qui nourrit un feu. Donc, et si on n'a pas ça, on n'a pas de vie. Et pour moi, je ne suis pas restaurateur, je ne fais pas de marché, je fais les deux à la fois, mais je ne me considère pas comme vendeur de légumes ou comme cuisinier ni rien du tout. C'est tout simplement pour moi une contribution à la vie. Comment je peux contribuer positivement à la vie en mettant le plus sain et le plus propre en moi, dans mon corps, mais en même temps aussi de réfléchir comment cette chose a été plantée le plus propre possible, comment elle a été cuisinée et cuite le plus propre et le plus fair, je veux dire. Hein. La personne qui l'a cuisinée, est-ce que cette personne a fait un voyage de quelque chose de pas bien vers quelque chose de mieux? Comment est-ce que cette personne s'est de jour en jour bonifiée, en un sens? Comment est-ce que moi, de jour en jour, je me bonifie? Toi en posant une question, moi en répondant à une question, Georgina en faisant son kébé. Donc, chaque pour moi, c'est tout simplement un développement. C'est un développement humain. Et comment est-ce que chaque jour, je peux être mieux que le jour précédent et le lendemain, je pourrais être mieux. Et pour moi, c'est ça la vie. Ce n'est absolument rien d'autre que ça. Et la cuisine, je la vois sous cet angle-là, pas du tout sous un autre angle.
J'ai lu que tu étais fils d'agriculteur. Est-ce que c'est ça aussi qui t'a donné cet amour de la terre, des produits? Tu parlais du produit juste, du bon produit.
Juste, ce n'est pas le produit. Le juste, c'est le producteur d'abord. Pour moi, c'est toujours une question d'être humain. Pour moi, le problème environnemental n'existe pas. La terre se porte très, très bien sans nous. Dans des terres qui sont tout à fait délaissées, l'environnement se porte parfaitement bien. Il est en équilibre et tout. Mais c'est nous qui venons déranger. C'est cet équilibre-là, que ce soit un équilibre social, environnemental, à tous les niveaux, c'est quand l'homme veut trop qu'il gâche l'équilibre d'un système. Donc pour moi, en fin de compte, c'est tout simplement un équilibre ou un développement humain et c'est rien d'autre que ça. Parce que c'est nous qui venons et qui cassons les équilibres existants. Mon grand-père était agriculteur, mes oncles étaient agriculteurs et moi, je suis d'une génération qui sait que le lait ne vient pas dans une boîte en carton sur une étagère au supermarché et que le persil a une saison et que la fraise ne pousse pas nécessairement dans une tente en plastique, mais elle peut pousser aussi en plein air et on la mange une fois par an, on la mange pas tous les jours parce que les autres jours, il y a d'autres choses à manger aussi, que cet équilibre naturel est extraordinaire parce que les gens dans les régions froides, ils ont de la nourriture pour les régions froides et des conserves aussi pour les mois très très froids et que tout ça est parfaitement bien fait. Et que si aujourd'hui on peut mieux faire, ça ne peut pas et ça ne doit pas être aux dépens de l'environnement ou des gens ou de la flore ou de la faune.
Et le fait d'avoir grandi dans cet environnement, ça t'a sensibilisé aussi à la cuisine. Enfin, tu t'es pas du tout orienté vers cette voie. Je crois que tu as fait des études de graphisme. Oui. C'est venu, la cuisine est venue ensuite. Comment elle est arrivée sur ton chemin?
Je ne sais pas si la cuisine est arrivée sur mon chemin. Je suis pas dans la cuisine. Moi, je considère que je suis dans le développement humain. Le développement d'un producteur, le développement d'une cuisinière, le développement d'un mangeur, d'un consommateur aussi, qui apprenne qu'il y a mieux à faire, mieux à acheter, mieux à manger. Donc moi, je me considère dans ça. Je ne suis pas cuisinier, je ne suis pas agriculteur, mais pour moi, c'est vraiment du développement de moi, du développement, c'est pas moi qui développe l'autre, c'est l'autre qui se développe lui-même, mais au moins, lui montrer à lui ou à elle une façon différente de vivre, de manger et de consommer. Donc oui, j'ai fait des études d'art graphique parce que mes parents pensaient mes parents m'ont donné la chance de faire des études universitaires. Donc voilà, c'est ce que je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais j'ai jamais travaillé. Mais c'était une très belle formation pour moi et il faut bien dire que mes parents m'ont permis toujours de faire ce que je voulais et ce que j'avais envie de faire. Donc je leur dois énormément pour cela. Et c'est ce qui m'a permis aussi de faire une chose après l'autre et de penser, de ne pas travailler tout de suite, peut-être de ne pas m'obliger à avoir un boulot tout de suite. Donc tout ça m'a permis d'arriver là où je suis aujourd'hui, quoi.
Tu aurais pu choisir un autre de développer de te servir d'un autre médium peut-être que la cuisine. Comment c'est arrivé?
Je pense que j'ai toujours voulu changer le monde. Je suis pas seulement un fils d'agriculteur. Étable ne vient pas à Paris seulement parce qu'on parle de cuisine. On a oublié un élément très très important. C'est la crise énormissime au Liban aujourd'hui, la crise politique, la corruption, le vol, tous nos comptes en banque, on ne peut plus du tout y accéder, la corruption de tout le gouvernement, l'explosion du port de Beyrouth en août passé. Donc toutes ces choses-là aussi m'ont poussé à faire un pas que, bon, auquel j'y pensais, gentiment peut-être, à faire un pas très vite et tout de suite. Et il faut aussi revenir un peu en arrière. Je suis un enfant de la guerre aussi. Je suis né en 69. La guerre a commencé en 75. Et je n'ai jamais compris pourquoi la guerre existait. Je n'ai jamais compris pourquoi tu avais le droit de me tuer et pourquoi vice-versa, j'avais le droit de te tuer juste pour une différence. On n'avait pas de problème de couleur de peau, de race peut-être au Liban, mais disons juste pour un problème de religion, de politique ou dans d'autres régions de couleur de peau. Mais est-ce que ça te donne le droit de me prendre la vie? Est-ce que ça me donne le droit de te prendre la vie, ça aussi? Donc ça m'a toujours mis hors de moi. Et je n'ai jamais compris pourquoi ces différences existaient et pourquoi la guerre existait. Et on justifiait la guerre à travers ces différences-là. Et mon slogan jusqu'à aujourd'hui, c'est Looking for similarities beyond differences. Regarder les similitudes au-delà des différences. Tu es une fille, je suis un garçon, n'est-ce pas? Ok, très bien, on peut se faire la guerre à cause de ça. On peut se dire non, mais c'est la diversité de la vie et du monde et de la nature et de la création et c'est extraordinaire. On va célébrer nos diversités, on va regarder au-delà de cela et on va se retrouver, on peut pas se retrouver autour de nos différences, mais on peut se retrouver autour des choses qui puissent nous rassembler. Tous les deux, on aime le biscuit, le petit beurre qui est là devant nous. On aime le beurre, on aime le biscuit, donc on va faire un projet autour du biscuit, autour du petit beurre, hein. Au lieu de se dire tu es musulmane, je suis chrétien et on va, bah non, on va pas se retrouver et je veux pas te changer de religion ni de conviction, et j'espère que tu ne feras pas pour moi aussi, mais qu'on garde ça comme quelque chose de privé pour les gens, et qu'on regarde aux valeurs qui puissent nous mettre ensemble, nous rassembler tous les deux. Quelles sont ces valeurs? Si les valeurs politiques ou religieuses ne nous permettent pas d'être ensemble, quelles sont ces formes d'éthique et de respect universel et humain qui nous permettent tous d'être ensemble et de regarder au-delà de nos différences, de voir comment est-ce qu'on pourra être autour de choses similaires entre nous deux. Donc moi, j'ai toujours voulu changer le monde. C'est tout. Je voulais rien. Je veux pas faire de la cuisine, ça m'intéresse nullement. Je veux pas faire des marchés, ça m'intéresse nullement. Mais quand je vois des gens de différentes régions, religions et origines se retrouver dans un marché fermier tous les samedis matins et ne même pas se demander quelle est ta religion, quelle est ton origine, quelle est la différence, mais se dire ah, mais on est tous les deux travailleurs l'un comme l'autre. Moi, je me lève à 4 heures du matin, je fais de la patate. Toi, tu te lèves à 3 heures du matin, tu fais de la tomate ou de la confiture et je sais pas quoi. Et c'est ça qui nous relie à nous tous. C'est la fierté de ce qu'on fait. C'est la fierté de ce que nous sommes et c'est la fierté de comment est-ce que je gagne ma vie, je suis indépendant financièrement, et comment est-ce que de jour en jour, je suis un homme meilleur, je suis une femme meilleure. Donc pour moi, j'ai toujours voulu changer le monde, je veux toujours changer le monde vers un monde meilleur, et j'essaie de le faire, au lieu de le faire à travers des mots, comme on le fait maintenant, ce qui n'est pas évident, et je ne sais pas si je le fais bien, je me demande toujours, j'essaie de le faire à travers des façons très très simples, à te dire, voilà, ça c'est un plat de taboulé, viens déjeuner, ça c'est une manouche, la manouche raconte toute la montagne du Liban. Hein, c'est du thym sauvage qui pousse dans la montagne maintenant au printemps. C'est un peu de sumac, c'est du sel et c'est des graines de sésame. Et c'est de l'huile d'olive de nos oliviers millénaires. Et ça te raconte ma tradition, mes racines et mon histoire beaucoup plus que n'importe quoi. Donc j'ai trouvé la cuisine comme une façon simple et facile et abordable de partager quelque chose avec l'autre. Et comme ça, de cette façon-là, de se rapprocher les uns les autres plutôt que par n'importe quel autre moyen. Tu me connais pas, Julie. On s'est croisés sur un trottoir en septembre passé, je pense, avec ces superbes trottoirs de Paris que j'ai adoré. Ça avait l'air d'une ville de vacances, Paris, avec tous les cafés qui étaient dans la
En
rue,
terrasse, ouais.
même pas dans les trottoirs, on était
Ouais.
dans la rue, quoi. Et tu avais entendu parler de moi, j'avais entendu parler de toi, mais c'est ça qui t'a attiré. Tu n'as pas goûté, je ne cuisine pas, tu n'as pas goûté à ma cuisine, ce sont les femmes qui cuisinent, les cuisinières, on les appelle les cuisinières, pas les chefs. Donc c'est cette histoire qui t'a attiré, n'est-ce pas? Et donc c'est ça, en fin de compte, qui est important plus que la cuisine elle-même. Et ce n'est pas une histoire. Aujourd'hui, dans la communication, on est obligé de créer des histoires. C'est difficile de créer des histoires. Soit qu'on en a une, soit qu'on n'en a pas. Et quand on en a une, il faut que ce soit une histoire qui vaille la peine. Et ce qui vaut la peine pour moi, c'est de changer le monde et absolument rien d'autre.
Et donc, c'est toutes ces réflexions, cette réflexion qui t'a amené à créer ce marché en 2004,
oui.
Sous Kel Taieb.
Oui.
C'était cette idée de tout ce que tu as raconté, mais aussi de préserver les souks, ces endroits où il y a une diversité culinaire, une diversité de production.
Souk, ça veut dire un marché en arabe. Taieb, ça veut dire bon. Donc, souk Taieb, c'est le souk du bon. Donc ça, c'est le nom du marché fermier et c'est le nom de toute l'organisation. Et sous cela, on a plusieurs projets comme Taoulé, qui est la cuisine. On a des noms interdits, donc on ne dit pas le restaurant, on l'appelle la cuisine. Comme Beit, qui sont les maisons d'hôtes. Comme Madbakh El Kel, la cuisine de tout le monde, qui est la soupe populaire que nous avons créée après l'explosion du 4 août dernier. Donc les souks de Beyrouth physiques, construits, et les souks, c'est toujours établi selon des métiers. Donc, il y a un souk pour les légumes, tous les légumiers sont là-bas. Un souk pour la viande, tous les bouchers sont là-bas. Un souk pour les mariés, par exemple. Toutes les robes de mariée, les trucs de mariée sont là-bas. Le souk des dinandiers. Chaque souk avait une fonction et un produit seul. Et on pouvait passer d'un endroit à l'autre, voir différents produits, mais de la même chose, différents légumes, et choisir ce qu'on veut. Et c'est pas les centres commerciaux. Les centres commerciaux, il y a un seul légumier, par exemple, pour ne pas se faire la compétition. Dans les souks arabes, on n'avait pas un problème de compétition. Chacun croyait qu'il allait prendre ce qui lui était dû. Et que si ma boutique, si j'étais dans ma boutique et que mon voisin n'était pas là, il n'y a pas de porte, il y avait juste une corde pour dire que unavailable. Hein. Et si quelqu'un, si tu venais en tant que cliente et tu insistais pour voir quelque chose, je sors de ma boutique et je te vends le truc du voisin, parce que ça, c'est ce qui lui est dû à lui. Donc, nous, c'est un souk comme un marché fermier, comme on l'entend en Occident, mais ce n'est pas un souk physique. Donc, nous, en fait, pendant assez longtemps, on était dans les anciens souks de Beyrouth qui ont été reconstruits après la guerre par Moneo, par de grands architectes mondiaux. Et on était dans ces allées-là, mais on faisait un marché fermier dans ces allées-là. Donc, on n'avait rien à voir avec les souks de Beyrouth, quoi. D'accord. Mais depuis l'explosion du port de Beyrouth le 4 août passé, on a décidé d'être plus proche du ground zero, du lieu de l'explosion. Et au lieu d'avoir notre marché qui était dans les souks de Beyrouth et Taoulé et nos bureaux et un Beit que nous avions à l'autre bout de la ville, à Mar Mikhaïl, donc on avait décidé de tout mettre sous un seul toit et on a pris une ancienne concession de voitures. Donc un grand espace où on a maintenant tout, on a Taoulé, on a l'épicerie de Kéné, on a nos bureaux et on a le marché fermier sous un seul toit, sous une même halle, dans un ancien garage, quoi.
T'as commencé par ce marché fermier tout au début.
En 2004.
C'est ça, ouais, 2004
tout
déjà.
Tout à fait, c'était le début de l'aventure.
Donc l'idée c'est de faire venir des producteurs de différentes régions, oui. T'avais commencé
c'est
comme ça.
C'est pas une idée, c'est une réalité.
Enfin, ouais, la réalité.
Donc l'idée c'était, il y a les plus beaux marchés du monde, je pense à Paris, mais il y a très peu de marchés de producteurs. La plupart des marchés ce sont des revendeurs. Donc tu pourras jamais parler du café que tu bois maintenant aussi bien que si c'est toi qui l'as fait. Et pourquoi est-ce que ce café doit passer de vendeur en revendeur en revendeur dans tout un système très long qui se fait l'argent quand le producteur ne se fait rien ou très peu d'argent et quand le consommateur n'a pas de contact direct avec le producteur? Donc Souk Taieb, c'est un marché exclusivement de producteurs. Personne n'a le droit de vendre que ce qu'il ou elle a produit, cuisiné ou planté. Donc ça, c'est une chose. C'est un marché de petits producteurs seulement. Si tu es un grand producteur et que tu as des équipes de 200 personnes, un budget de communication, de la publicité à la télévision, on n'est pas là pour te soutenir ou t'aider, quoi. Donc c'est pour les petits producteurs, c'est pour le produit de qualité, c'est pour le produit de tradition. Et ce n'est pas un ghetto bio. On préfère si c'est certifié bio, mais ce n'est pas un ghetto bio parce qu'à ce moment-là, on aurait beaucoup de gens qui ne pourraient pas participer. Donc, je préfère bien sûr un produit local, pas certifié et propre, entre guillemets, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais plutôt qu'un produit fait par de l'agro-industrie à l'autre bout du monde et certifié bio. Donc, et c'est là où la responsabilité de l'individu s'arrête. Parce qu'en fin de compte, c'est toi, c'est moi en tant que consommateur qui votons avec nos euros, quoi. J'achète ça ou ça, et en achetant ça ou ça, je suis en train de soutenir tout ce qu'il y a derrière ce produit à gauche ou ce produit à droite.
Et donc les producteurs, enfin c'est pas des concessions qui sont données par exemple à l'année ou enfin
on n'a voilà, pas un papier tourne, signé en fait. Julie, on n'a pas un contrat, on n'a pas un papier signé.
Ça tourne.
C'est un intérêt commun. Ouais. C'est un intérêt commun. Non, les gens, les producteurs reviennent très régulièrement et c'est à chacun des producteurs d'avoir un bon contact avec ses clients, d'avoir sa clientèle, et si ça ne marche pas, ben c'est que tu n'as pas un bon produit ou que tu ne sais pas bien vendre. On t'aide autant que possible, mais c'est ta responsabilité en fin de compte.
Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a une diversité. Enfin, pour les clients, ça permet de découvrir une diversité, ça change régulièrement ou...
Non, il y a des gens qui sont là depuis 2004 D'accord. jusqu'à maintenant. Ah, oui. Il y a des gens qui ont grandi et qui n'ont plus besoin de se côtoyer, qui font autre chose à une autre échelle. Il y a des gens avec qui ça n'a pas marché, il y a des gens qui ont été ailleurs. Donc non, il y a des gens qui sont toujours là, un noyau, mais on essaie toujours aussi, nous, en tant que direction, de faire un bon équilibre. Un bon équilibre, ça veut dire qu'on sait que toi et moi, en tant que producteur, on va chaque semaine acheter 10 laitues, 5 kilos de tomates, 2 kilos de citron. Donc ça, c'est les choses, ce qu'on appelle les fruits et les légumes frais. On sait que ça, c'est les choses les plus demandées. Donc il faut qu'ils soient bien représentés. Et bien sûr qu'ils soient bons, ça, c'est... sinon ils ne seront pas à Soukot Tayeb. Et sinon, on achèterait moins de conserves. Tu achètes un pot de confiture de fraises une fois par mois, mais pas toutes les semaines. Mais la laitue, tu l'achètes toutes les semaines. Ensuite, les plats cuisinés. Hein, donc, au lieu de faire ta kébé toi-même, tu peux, Georgina fait une excellente kébé, tu peux acheter la kébé de Georgina, la manger le jour même ou la manger plus tard, ou acheter une kébé qui n'est pas cuite, que tu vas cuire dans 2 jours plus tard. Donc, et ensuite, il y a le moins d'artisanat, disons. Donc, bien sûr, il faut que ce soit un artisanat intéressant, typique, local et utile. Parce que si on commence à faire beaucoup d'artisanat, ça devient très vite un marché de pacotille et pas un marché d'autre chose. Donc, voilà. Mais tous les produits raconte la tradition, raconte la terre, raconte le Liban. On a par exemple Jigril qui est du verre extraordinaire avec le dernier souffleur de verre qui est au Liban, qui se trouve à Sarafand. Mais ce projet-là est un projet de recyclage fait par le dieu du recyclage qui s'appelle Ziad Abishaker, qui récupère le verre à Beyrouth, donc tout le verre qui a été cassé pendant l'explosion, mais aussi les bouteilles de vin et de bière verte et marron. Donc on n'arrive pas du tout à recycler au Liban. Et donc, il récupère tout ça, il en fait des formes, du verre soufflé avec des formes modernes et utiles, des carafes, des vases extraordinaires qu'on vend au marché aussi. Donc, tout doit être utile, entre guillemets, pas pour toi seulement, pour boire dans le verre, mais tout le circuit doit être vertueux. Pas seulement, c'est un superbe verre que je tiens à la main. Bah, qu'est-ce que ça a coûté, Julie ? À la terre, aux gens qui l'ont produit, donc tout ça. Si ça a coûté trop cher, non, on n'en veut pas. Si ça a donné plus que ça a pris au mec qui l'a soufflé, à l'environnement, socialement, à tout ça, ben c'est très bien. Donc c'est un verre vertueux. Et c'est comme ça qu'on réfléchit.
Et comment ça a été accueilli quand tu as ouvert le souk, enfin le marché de producteurs ?
Je ne sais pas, j'ai oublié en 2004. Je ne sais pas, j'ai oublié. Ça a été magnifique. Très bien accueilli, mais en même temps très, très, très difficile. Le nombre de fois où j'ai pleuré et j'ai baissé les bras, je ne peux pas te dire. Et heureusement que je n'ai pas baissé les bras à 100%, mais à 99,99%. Donc, j'étais tout seul au début, mais après, j'ai vite compris en 2004, j'ai commencé. À la fin de 2008, j'ai compris que j'ai des limites. Il y a des choses que je sais faire, il y a des choses que je ne peux pas et que je ne sais pas faire. Et donc là, j'ai eu la chance de rencontrer Christine Kotzi, qui était consultante en management et qui est venue faire un audit gratuit pour voir comment et ce qu'on doit faire. Et c'est là où je dis, ben c'est très bien ma chérie, mais qui va faire toutes ces magnifiques recommandations ? Moi, je peux pas les faire. Et c'est là où elle s'est joint à moi et on a transformé cette initiative individuelle en une institution. Et depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, on rame ensemble, quoi. Voilà.
Ça a permis aussi de développer, parce que comme tu expliquais, tu avais ouvert donc la partie table.
En 2009. Oui, en 2009. En tu 2009. N'oses plus dire taulé. C'est un problème. Comment est-ce qu'on va appeler ce projet ? Mais ça m'amuserait moi qu'on dise toilette et on rigole au moins.
Donc ça t'a permis.
Prends ton courage à deux mains et dis le mot.
Taulet.
Vas-y.
Taulet.
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 T-A-W-L-E-T.
Taulet.
Taulet. Mais on va pas faire ça avec chacun des gens. Donc, pour le moment, ça s'appelle Taulet. Peut-être qu'on va se dire à un moment que non, c'est pas possible. Oui, on a commencé notre aventure, Christine et moi, début 2009. Et c'est le 5 novembre 2009 que Taulet Beyrouth a commencé. Donc, pas beaucoup plus tard.
C'était une idée que tu avais depuis le début du marché ?
Non, pas du tout. Non, les journalistes aiment toujours avoir, je dis toujours, je raconte, oui, c'était le 15, comment est venue l'idée ? Donc on aime les histoires, je dis toujours, oui, c'était le 15 août, il faisait très chaud, j'ai dormi tôt, j'ai eu un rêve de marché et tout ça, et le matin je me suis levé, non, c'est pas ça. C'est une évolution d'une chose vers une autre. Au début, j'avais même pas l'idée de marché, c'est pas moi qui ai eu l'idée du marché. Il y a eu un événement autour des jardins à Beyrouth, ça s'appelait le Garden Show, c'était le premier en 2004, et les organisatrices, j'étais journaliste de cuisine, j'étais sur le board de Slow Food à Bra, donc j'étais prof de cuisine macrobiotique, j'étais donc dans ce monde, j'étais monsieur cuisine. Donc les deux organisatrices du Garden Show en 2004 sont venues me dire « Kamal, tu es monsieur bouffe au Liban, on fait le Garden Show, il faut bien sûr qu'il y ait un coin bouffe, donc c'est toi qui vas t'en occuper, allez vas-y, tu te démerdes ». Et donc j'ai rassemblé autour de moi une dizaine de producteurs dont j'écrivais, je parlais, donc et on a fait ce petit coin de petits producteurs jetés au fond du Garden Show au fond et qui était comme un aimant qui attirait les gens. Donc au bout de 5 jours de succès, je me suis dit c'est un signe. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Je vais continuer. Moi mon rêve c'est les marchés. Quand j'arrive dans un pays, comment est-ce que tu peux connaître un pays? C'est pas le supermarché, c'est pas les boutiques chics ou les restaurants qui te disent le pays. Le seul endroit sincère et authentique pour connaître le pays à travers ces gens, c'est d'aller dans un marché de producteurs, pas un marché de revendeurs. Je dis ça encore une fois.
Donc, vois les habitants, effectivement.
Voilà.
Enfin, tu vois les producteurs.
Absolument.
Tu vois les produits,
le plus beau
les
marché
habitants.
Du monde où j'ai été, c'est à Trabzon, à Trébizond, sur la mer Noire, en Turquie. Et ça s'appelle le marché des femmes, je pense. C'était ces gentilles paysannes qui venaient. C'est une région très agricole, très rurale. Et donc, c'était toutes ces gentilles femmes, de vieilles femmes qui venaient des régions agricoles tout autour de cette ville. Et qui chacun, qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait pu cueillir les herbes sauvages, elles avaient ça devant elles. Toi, tu as récupéré des haricots que tu avais de la saison passée. Donc c'était ça, c'était vraiment rencontrer le lieu à travers ces humains, ces hommes et ces femmes. Donc je me suis dit, mon rêve est toujours les marchés, faisons un marché. J'ai fini le Garden Show. 10 jours plus tard, j'avais créé quelque chose qui s'appelait Sukkot Tayyip. L'événement du Garden Show ne s'appelait pas Sukkot Tayyip, ça s'appelait The Garden's Fruits. Fruits comme abondance. Donc 10 jours plus tard, il y avait Sukkot Tayyip. Donc c'est une évolution d'une chose vers une autre. À un moment, les gens ont commencé à venir à dire, moi je suis du nord, je voudrais une table au nord. Moi je suis du sud, je veux une table au sud. Donc on a commencé à faire des tables régionales. Et dans chaque région, c'est pour les femmes, les ingrédients et les recettes typiques de la région seulement. Quand je vais à la table du sud, je mange pas la bouffe du nord, c'est pas possible. Quand on a commencé à faire ces tables régionales, on s'est dit, je vais au sud, je mange la cuisine du sud dans cette table du sud. J'ai fait le voyage. Est-ce que je pourrais aussi peut-être profiter un peu plus et dormir dans la tradition de cette région, dans une maison traditionnelle, avec l'artisanat traditionnel, sans que ça soit kitsch, dans l'utilité, avec la bouffe traditionnelle aussi en même temps. Et c'est là qu'en 2015, on a créé le projet de Beit. Beit, ça veut dire maison. Et il y a commencé à y avoir des maisons dans les régions. Et chaque maison est typique. C'est comme une ambassade de la région, une maison typique dans son architecture, dans sa cuisine et dans les objets qu'il y a dans cette maison-là. Et comme une vraie maison, il n'y a pas de logo sur les draps et sur les serviettes dans les salles de bain et les draps de lit. Parce que dans ma maison, je n'ai pas de logo. Et dans la maison de ma grand-mère, il n'y a pas de logo sur les draps. Okay, c'est de très beaux draps, très blancs, en percale de coton, impeccable, très propre, bien repassé. Mais il n'y a pas de logo. Donc c'est toujours cette idée vraiment de maison. Pas comme à la maison. Non, maison. Et c'est comme ça que les choses évoluent d'une chose vers une autre. On ne réfléchit pas à ça. Jusqu'à que le octobre 2019 arrive et que la corruption qui existait depuis toujours, mais les comptes bloqués en banque, la révolution, l'explosion du 4 août 2020, où on a perdu presque toutes nos maisons et tous nos taulés et qu'on a dû créer la cuisine communautaire qu'on appelle Madbakh el-Kel, la cuisine de tout le monde, la soupe populaire, qui est contre toutes mes convictions, parce que moi je suis contre la charité. La charité, ça veut dire, c'est je te donne quelque chose et tu vas devenir un mendiant. Et quand tu es un mendiant, tu n'as plus de fierté d'être humain et tu acceptes tout. Le mauvais, tu acceptes tout. Mais malheureusement, dans une situation d'urgence, il faut faire avec l'urgence. Pour moi, ce qui sauve l'homme, c'est une économie productive. Donc, c'était ça l'idée de Sokoto Tayeb. Qu'est-ce que tu sais faire des tomates? Viens vendre des tomates. Toi, qu'est-ce que tu sais faire des mots? Viens vendre tes mots. Donc, chacun fait quelque chose et tu vends un service ou un produit. Vends entre guillemets, tu vois. Mais c'est ça. Donc, tu contribues positivement à la vie avec quelque chose qui va rendre cette vie meilleure. Cette vie avec un grand V. Hein. Donc, voilà. C'est comme ça qu'on évolue d'une chose vers une autre et que maintenant, ça fait depuis août passé, donc on fait de la charité, entre guillemets. Et que maintenant, on se dit, OK, quel est le « what's next step ?»
Et enfin, tout ça, finalement, ça raconte aussi beaucoup... tu disais que tu étais un activiste, peut-être, de la...
Activiste culinaire. C'est pas moi qui le dis, c'est... Le New York Times a dit pour la première fois, moi, je peux pas dire ce que je fais, je sais pas ce que je fais d'ailleurs.
Bon, en tout cas,
mais moi, je veux changer le monde, bien
voilà,
sûr.
Voilà, tu veux changer le monde.
J'espère que tout le monde veuille changer le monde. Ouais. Si on cuisine tout simplement pour cuisiner et pour que les gens s'engraissent plus, donc on est en train de gaver des oies. On ne fait pas autre que ça. Mais si on change le monde en donnant une émotion aux gens, hein, waouh, qu'est-ce que c'est bon. Moi, quand j'ai mangé, j'étais avec Rabia, mon ami, et quand j'ai mangé les tomates aux douces saveurs, je pense, d'Alain Passard, j'ai pleuré, quoi. Donc, changer le monde, c'est aussi donner une émotion. Je veux pas dire toujours, c'est de l'activisme, c'est, on va créer des emplois. Non, c'est se faire plaisir aussi, parce que quand je me fais plaisir aussi, je peux faire, j'ai plus d'imagination, je fais mieux ce que je fais, je pose une meilleure question quand je suis Julie, je réponds une meilleure, réponse quand je suis Kamal. Donc, c'est ça, c'est comment mettre du plus en moi pour que je fasse mieux ce que je dois faire.
Tout ça, ça raconte aussi beaucoup, je trouve, une lutte un peu contre l'uniformisation des goûts, l'uniformisation des produits, de la cuisine.
J'aime pas le mot lutte.
Non, pas
je
lutte.
Je lutte beaucoup,
alors.
Je suis un enfant de guerre, donc c'est beaucoup de lutte. Non, mais la lutte, mais l'uniformisation, c'est un problème économique. On a uniformisé parce que ça nous reviendrait moins cher et on vendrait plus à la fin. Donc, ça revient un peu à ce que je te disais depuis le début. Célébrer la différence.
Oui.
Célébrer la différence, ne pas faire la guerre, ne pas faire de l'uniformisation. Donc, c'est toujours la même chose. C'est accepter que la différence existe et ce n'est pas un threat, comment dire, je cherche parfois mes mots en français, pardon. Ça peut ne pas être mauvais pour moi, quoi.
Oui. Donc, c'est ça que tu célèbres finalement. Oui. Célébrer les différences. C'est vrai qu'on a aussi cette image. Enfin, on connaît pas finalement toute cette diversité de la cuisine libanaise. C'est aussi ça que tu montres et que tu vas montrer dans ton projet.
Parce que c'est aussi un peu mal représenté, je pense, en France et à Paris. Mmh. La cuisine libanaise, c'est souvent les traiteurs bon marché avec un taboulé d'hier ou d'il y a 4 heures et des falafels et des kebabs huileux. Donc non, ça c'est la forme un peu cheap, bon marché. Il y a deux cuisines différentes, il y a deux cuisines complètement différentes dans la cuisine libanaise, ce que j'appelle le public et le privé. Il y a la cuisine de restaurant, c'est le street food ou les mésés, et à la maison on mange pas de mésés, on mange complètement autre chose, c'est ce que j'appelle le privé, donc c'est la cuisine familiale, c'est une cuisine de ragoût, de région, de tradition, et c'est quelque chose que même au Liban, quand on arrive en tant que touriste et qu'on peut pas aller, qu'on n'est pas invité chez les gens et qu'on peut pas aller taper à la porte des gens, c'est une cuisine qu'on connaît pas du tout. C'est pour ça que le déjeuner, le midi à table, et quand on met ce buffet, c'est un peu un regard anthropologique sur le Liban. Quand on voit les chardons, on mange les chardons, par exemple. Tu vois, les chardons, quand ils sont encore petits, c'est un genre d'artichaut. Donc, il faut les cueillir très petits, enlever les petites épines tout autour. C'est un peu difficile à préparer. Mais ça, c'est une étude anthropologique des montagnes du Chouf, par exemple. Mm-hmm. Hein. Donc, quand on arrive un jour et que c'est les montagnes du Chouf et qu'il y a du chardon, c'est une étude anthropologique. Ce n'est pas un buffet. Quand on arrive le lendemain et qu'il y a la cuisine du Sud et qu'on trouve le kebab du Sud, le kebab cru, le tartare, du sud qui est fait avec ce qu'on appelle la tahouiche et le ramassage. Donc, On sort dans le jardin et on ramasse la cueillette. On va cueillir les roses, les feuilles de citronnier, la menthe sauvage, la menthe, la marjolaine, du cumin, donc toutes ces choses-là, et qu'on ajoute au kebbe. Donc c'est tout le jardin, c'est Chanel numéro 5, quoi, quand même, dans un kebbe. Et quand on va le nord, qui est plus dur, les hommes, la nature, la pierre, et que le kebbe, c'est tout simplement de la viande pilée avec un peu de bourgoule, du poivre blanc et du sel. Donc tout ça, c'est des études anthropologiques qui racontent chacune des régions. Donc c'est ça, la diversité.
Il y a quelqu'un qui m'a parlé de chèvres tapées avec le poing, des femmes qui tapaient des morceaux de viande de chèvre.
Oui, c'est le kebbe. Ouais. Le kebbe, oui, en fait, c'est une purée très fine de quelque chose avec du bourgoule. Le bourgoule, c'est pas de la semoule. On connaît pas la semoule au Liban. C'est une tradition nord-africaine. Au Levant, moi, j'ai jamais vu de couscous avant de venir à Paris quand j'avais 25 ans. Jamais. Hein. Mais le bourgoule, c'est autre chose. Le bourgoule, c'est du blé étuvé, séché, ensuite concassé, soit très fin pour ajouter au taboulé ou au kebbe, soit plus gros. À ce moment-là, il est cuisiné comme un risotto ou avec les légumes farcis, quoi. Donc la viande, pour faire le kebbe, elle doit être tapée très fin, donc c'est dans un pilon et dans un mortier, comme tout pilon et mortier, mais très grand, et elle est tapée pendant très longtemps pour avoir une purée, comme une purée d'avocat très 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 fine. Et c'est cette purée qui est mangée soit crue avec le bourgoule, et le sel et le poivre au nord, au plus au sud ou dans d'autres régions, où elle est faite en boulettes, donc c'est les boulettes qu'on connaît chez les traiteurs, où elle est faite en différentes formes de boulettes, où elle est faite comme dans un plat, comme une tarte, disons, en deux couches ou en une couche. Donc c'est différentes formes, où c'est les boulettes qui sont cuisinées dans des sauces différentes, dans du yaourt ou dans une sauce de tahiné. Donc c'est des formes différentes. Ou ça peut être un kebbe végétarien aussi, ça peut être une purée de pommes de, pas purée, une pomme de terre écrasée très finement, donc comme, ça doit toujours avoir la consistance comme si c'était une purée d'avocat, donc très 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 fine, soit des lentilles, les Arméniens font le vospov kefté qui est des lentilles jaunes, décortiquées, cuisinées, donc ensuite transformées en purée, auxquelles on va ajouter le bourgoule. Donc le kebbe, c'est toujours une purée de quelque chose qui tient avec le bourgoule.
On va pouvoir goûter tout ça à
Toilette
Paris. Bien sûr,
que ça, que ça.
Non, c'était un ami donc qui m'avait parlé de ça, qui avait assisté à un dîner que tu avais fait à Table Ronde il y a quelques années, je pense.
Ah oui, absolument. Ouais. Oui,
avec
je
deux femmes, il me disait qu'il y avait une femme
du Nord.
Du Nord et une femme du Sud.
Oui, absolument.
Et donc, il y avait deux dîners en parallèle. Ouais. Il me disait que c'était incroyable. Quand je lui disais que j'allais t'interviewer. J'ai une petite tradition dans mon podcast, c'est que c'est une interview dans l'interview, plus personnelle. Ton plat préféré à toi de tous les temps ?
Taboulé. Mais le vrai taboulé libanais, bien sûr. Donc beaucoup de persil, un peu de bourgoule, de la tomate, du citron, très peu d'oignons, de la menthe et de l'huile d'olive. Bien frais. C'est un plat de fête et c'est un plat d'été. Mélangé. Tous les ingrédients sont mélangés à la dernière minute et assaisonnés à la dernière seconde. Et on passe à table et on mange tout de suite. Le bourgoule doit être presque encore craquant dedans. Et le persil ne doit pas cuire dans le citron et les autres liquides. Et pas du tout le taboulé des vitrines de traiteurs qui a macéré dans son jus depuis une journée ou plus.
Et qui est fait avec du couscous.
Non, je n'entends rien. J'ai pas entendu.
Ton livre de recettes fétiche ?
Le carnet de recettes de ma mère, qui était bilingue français et arabe, bien sûr. Et qui, c'est le carnet de recettes, c'est tout simplement, elle va chez ma tante qui s'appelle Eugénie. Elle aime un gâteau et on prend la recette. Et c'est cake de tante Eugénie. Et cake, c'est K-E, accent grave, K-E.
Tu vas l'éditer ? Non ?
Non, je pense pas, mais je voudrais bien faire un livre de cuisine des mamans. Donc, parce qu'on sait toujours que Julie, la grand-mère de Julie fait très bien ça, les petits beurres, la grand-mère de Kamal ou la maman de Kamal fait très bien ça. Donc, oui, bien sûr, raconter Beyrouth à travers les plats phares de ces gens.
Le dernier ingrédient que tu as découvert ?
Les poivres différents des Rollinger.
Le truc le plus trash que tu aies mangé ?
un McDo à Nice quand tout était fermé un dimanche soir et qu'on venait de la Toscane et de Gênes, qui est une de mes villes préférées au monde. Et donc, on arrive un dimanche soir, il n'y avait absolument rien d'autre à manger. Et on rentre là-bas et j'étais avec Rabia, et Rabia commande et il connaissait les noms des burgers et ça m'a rendu complètement dingue. C'est genre, ok, on va manger ici, mais comment est-ce que tu connais le nom? C'était une trahison, comment dire, totale. C'est ok, on va manger ici, mais comment est-ce que tu connais le nom de ces choses-là? Tu les as déjà fréquentées, c'est pas pour ça.
Ton dernier meilleur repas?
Hier à midi avec des femmes extraordinaires. Donc c'était ça la bonne partie du repas, les femmes et pas seulement la bouffe.
Une technique de cuisine que tu aurais redécouverte récemment?
Le four, je suis un très grand adepte de la cuisson au four, j'adore les fours.
Le chef ou la chef à suivre?
Qui vit encore ou...
Oui, qui vit encore.
Ouf, c'est difficile.
Plutôt quelqu'un de nouveau.
Bah, mon tout dernier restaurant bluffant, c'est Papy, la pizza avec cette pâte au levain qui lève pendant 3 jours. Et ça m'a complètement séduit.
La musique, ta musique pour cuisiner?
Je n'aime pas la musique en fond sonore. La musique, c'est pour écouter. Et ce n'est pas en fond sonore.
Un compte Instagram que tu aimes bien suivre?
Je ne sais pas.
Bon, ça y est, c'est terminé cette partie. Comment tu te définis aujourd'hui? Est-ce que t'es pas cuisinier, activiste, chef d'entreprise ou...
Oui, je suis activiste, mais je considère que chacun de nous doit l'être aussi. Si chacun de nous fait ce qu'il fait et ce qu'il fait ne va pas changer le monde, vaut mieux ne pas le faire.
Tu cuisines beaucoup à la maison?
Oui, je cuisine à la maison.
Mais pas dans les restaurants. Enfin, ça t'arrive de mettre la main à la pâte?
Oui, bien sûr. J'étais à l'Idéal, à l'épicerie l'Idéal à Marseille il n'y a pas très longtemps, il y a 2 3 semaines, et je vais faire un peu le tour de la France avant d'ouvrir Taoli. Je vais faire le tour de la France à cuisiner tout seul ou avec des femmes qui viendront du Liban si on a les moyens pour voilà, d'ici jusqu'à l'ouverture de Taoli et peut-être aussi après.
Et c'était ça ma question que je voulais te poser. Chez Tolette, oui, on va pouvoir découvrir la diversité de la cuisine libanaise pour commencer. On va pouvoir découvrir des recettes qu'on n'a jamais goûtées peut-être à Paris et qu'on connaît pas.
Ben, Taoulé à Paris, ça va être une étude anthropologique différente tous les jours. Tous les jours, ça va être un buffet différent. Bien sûr, il y aura les classiques comme un hummus et un taboulé, par exemple, mais même un taboulé, ça sera sous la forme la plus sincère, la plus simple et la plus authentique que les Parisiens et les Français ne connaissent pas.
Enfin, c'est vrai qu'on a cette image de la cuisine libanaise avec des produits très méditerranéens et donc estivaux. Il y a aussi des recettes d'hiver. Enfin, comment ça va évoluer par rapport aux saisons, etc.
La cuisine libanaise est une cuisine très régionale et très saisonnière, bien sûr. Quand elle est saisonnière, donc elle suit les produits available en saison. Par exemple, on ne fait jamais un taboulé en hiver parce qu'il n'y a pas de tomate, il n'y a pas de persil. Il peut y avoir du persil, mais pas de tomate. Donc même le taboulé, par exemple, pas aujourd'hui, mais traditionnellement, il y avait des formes différentes de taboulé. Il y avait un taboulé d'été, donc c'est l'été, il fait chaud, c'est la Méditerranée, on boit un verre d'arak. L'arak, donc, c'est l'alcool anisé que nous buvons avec la bouffe. On ne boit pas d'apéritif ni de digestif, mais nos repas sont tellement longs, donc c'est 2 3 heures de repas un dimanche, et on boit tout le temps pendant le repas. Donc, c'est vraiment une expression de l'été. Et en hiver, c'est un plat complètement différent. Le taboulé d'hiver est un plat avec les produits de saison, donc du chou. Et du chou, pas tout simplement en salade, du chou qui a été blanchi. Donc quand il a été blanchi, il va me donner plus de chaleur dont j'ai besoin parce qu'il fait froid. Donc du chou, du gros bourgoule, pas fin. Le fin, je l'ajoute juste à la tomate, donc ça va absorber le jus de la tomate. Le gros, je suis obligé de le cuire. Et quand je le cuis, je donne plus de chaleur, donc ça va compenser le froid. de la saison et du confit de viande, du confit de viande comme le confit de canard, donc c'est de la viande hachée, donc c'est moitié viande, moitié gras, et donc et la viande et le gras, tout ça c'est des choses qui vont réchauffer, donc c'est un plat avec les produits de saison ou de conserve, et c'est des plats qui vont contrebalancer le froid, donc ils vont réchauffer, tout comme un taboulé d'été, il contrebalance la chaleur, il rafraîchit.
Ouais, donc il y a des versions vraiment qui suivent complètement les saisons de chaque recette un peu phare.
Absolument.
Ouais, comme tu expliquais tout à l'heure, le Québec qui peut être végétarien et donc on découvrira toute cette diversité
tout
bientôt.
À fait.
Tous les projets, c'est aussi beaucoup de rencontres entre toi, d'autres cuisiniers, cuisinières.
Ce n'est que ça. Ouais. C'est une histoire d'être humain pour moi. Ce n'est absolument rien d'autre. Et le monde entier, c'est que des êtres humains et des rencontres. C'est tout. Ce n'est absolument rien d'autre. La nature se porte très, très bien sans nous. Elle se porte plus mal avec nous. Hein. Donc, en fin de compte, c'est des rencontres. Ce n'est rien d'autre. Et ces rencontres, comment est-ce qu'elles peuvent produire et contribuer mieux à la vie et à la nature.
Est-ce que tu as des souvenirs marquants de belles rencontres ?
Énormément. Surtout les souvenirs quand, à la fin de la guerre s'est terminée en 91. Donc deux ou trois années plus tard, on m'a demandé d'écrire un guide sur le Liban et j'ai été pour découvrir ce pays dont j'avais entendu, que j'avais jamais visité parce que le Liban était divisé genre en plusieurs pays et chacun d'une région ne pouvait pas accéder ou pouvait difficilement accéder à une autre région, ou si on y accédait, on était d'un clan ou d'une religion, on était tué parfois pour ça. Donc un de ces jours, donc le pays est ouvert et voilà, c'est le pays entier. Et c'était pour moi la grande découverte, c'était combien ces gens que je pensais très différents n'étaient absolument pas différents. On était tous tout à fait les mêmes, de n'importe quelle politique ou de n'importe quelle religion. Si on arrive vers l'autre avec les bras ouverts, ils ont des bras encore plus ouverts. Si on arrive avec une arme, ils te tuent, ou avec de la violence, je veux dire, ils seront plus violents que tu ne l'es déjà. Et ces gens que je connaissais même pas, le cheikh Druze dans les montagnes Druze d'Ouchouf, qui me retrouve à midi à visiter un lieu saint Druze et qui m'invite à déjeuner chez lui à la maison. Donc ça, c'est des moments bien sûr inoubliables. Et la petite fille dans les montagnes de la Beka qui, je ne l'ai pas embrassée, je pensais que je ne pouvais pas l'embrasser, et qui va chuchoter à son père et qui lui dit, je lui dis, mais tu n'as pas le droit de chuchoter, qu'est-ce que tu dis à ton papa? Elle me dit, je lui demande pourquoi tu ne m'as pas embrassée. Donc c'est des êtres humains, c'est rien d'autre. Ouais.
De quoi tu es le plus fier aujourd'hui dans tout ce que tu as construit et...
Je pense que je n'ai rien construit. Je n'ai pas la prétention, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je pense qu'il faut toujours faire jusqu'à la dernière seconde. Mais si je suis fier, si je suis content d'une chose, c'est de voir les gens qui se sont construits eux-mêmes une meilleure vie pour eux-mêmes, mais surtout pour leurs enfants aussi.
C'est donner de l'autonomie aussi, enfin tes projets aussi.
Pour eux et pour leurs enfants.
Ouais.
C'est ça qui est important. Mmh.
Tu parlais de Next Step tout à l'heure, il y a Paris. Est-ce que tu comptes aller aussi dupliquer ce projet dans d'autres pays peut-être?
Je suis ouvert pour le monde entier. Il faut déjà faire un bon premier pas à Paris. Voilà, on n'a pas encore un lieu défini et fixe. Donc j'espère qu'on fera un bon premier pas ici. Et je ne sais pas, on verra. C'est toujours comme ça. Moi, je n'ai pas de plan en quinquennat et je fais un pas, mais je reste toujours les yeux, les oreilles ouvertes. Et quand un projet commence, je step back, je recule et je regarde. OK, c'est comme un enfant qui vit et OK, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et c'est le projet qui décide, pas moi. À l'écoute.
J'ai une autre tradition, c'est de demander une recette à la fin des interviews. Qu'est-ce qu'on peut cuisiner
Pour moi, c'est le taboulé, encore une fois. Boring, je suis désolé, mais je suis obsédé
le
de taboulé.
Le vrai taboulé.
Oui,
explique-nous comment on
avec
le fait.
Avec les 10 commandements, quoi.
Voilà. La version estivale, si tu veux, comme on s'approche de l'été.
Un taboulé, c'est d'abord du persil, beaucoup de persil. Il faut que ce soit pas le persil de 1 mètre de haut qui est très dur. Donc, il faut que ce soit du persil petit et très tendre. Bien sûr, du persil plat, pas du frisé. Donc, et c'est autant de persil que de tomates. C'est de la tomate bien rouge, bien goûteuse, mais bien ferme aussi. Donc, la tomate en très petit dé, le plus petit possible. auquel je rajoute du bourgoul, mais très peu de bourgoul. Le bourgoul, je le rince à l'eau, je l'essore bien et je l'ajoute à ma tomate. Donc ça va absorber encore maintenant le jus de la tomate. J'ajoute le sel là-dessus pour qu'il se dissolve. J'utilise du gros sel pour qu'il se dissolve dans la tomate. Et j'aime toujours que le taboulé, ça doit un peu étonner en bouche. Donc beaucoup de citron, beaucoup de fraîcheur. J'aime bien ajouter un petit piment vert que je hache très fin. Je l'ajoute aussi. Un peu de menthe ciselée très très fin. Ensuite, un petit oignon ou un oignon vert de préférence que je vais frotter avec du sel et du poivre. Quand je le frotte, ça le cuit un peu. C'est le seul truc qui doit être un peu frotté, un peu cuit dans un taboulé. Après, beaucoup de persil. Et donc, l'astuce, c'est que le persil ne doit pas être haché à l'occidental où on revient sur là où on a coupé. Mais je fais des bottes. Donc, le bas des feuilles, tout le bas des feuilles commence au même niveau. Je lave, je laisse bien sécher. Ensuite, je hache. Et en hachant, c'est comme si je tranchais une tranche de jambon où le couteau passe une seule fois et pas deux. Et le couteau passe sur la coupe et pas sur la botte, parce qu'il faut que ça soit très, très, très finement coupé. Mon couteau n'est pas droit. Je tiens ma botte avec ma main gauche. Mon couteau n'est pas droit, n'est pas tourné vers l'intérieur parce que je couperai mon index. Il doit être tourné vers l'extérieur pour que je ne coupe pas mon index, pour que je ne me blesse pas. Et voilà. Donc, je mélange le tout que à la fin. Et j'assaisonne vraiment à la fin avec le citron, du jus de citron, beaucoup de jus de citron, il faut que ça soit acide, et de l'huile d'olive. Et voilà. Et je garde tout ça au frigo avant de mélanger pour que le taboulé soit éclate de fraîcheur et de froid et de citron et d'une pointe de piment. Voilà.
C'est en même temps hyper simple et hyper précis sur les gestes et sur les...
Absolument. Absolument. Il n'y a pas de crevettes dans un taboulé, il n'y a pas de concombre, il n'y a pas de je ne sais pas quoi. Donc non, ça c'est un taboulé. Après on peut faire des variantes, on peut les appeler autre chose, mais non, voilà, ça c'est un taboulé. Un taboulé, on commence un repas avec un taboulé, toujours. Les grands repas de fête ou les repas de dimanche ou les mésés, on commence par un taboulé. Et un taboulé, je mange dans une petite feuille, dans un petit bout de romaine. En saison, ça se mange avec les feuilles de vigne verte. Il faut qu'elles soient très, très tendres et crues, fraîches. Donc, on cueille la feuille, on la lave et on mange avec. On mange pas avec nos mains, on mange avec nos doigts. Mais les doigts ne touchent pas la nourriture. Soit qu'on tient un pain, un petit bout de pain, et qu'on fait une petite bouchée, qu'on mange entièrement, on ne croque pas dedans et on ne peut pas remettre dans une assiette de hummus. On devient fou du double dipping. Et sinon, donc, c'est soit une feuille de chou. Moi, j'aime bien mon taboulé avec une feuille de chou. C'est du chou blanc très craquant et très tendre. Soit de la romaine. En saison, c'est des feuilles fraîches de vigne. Et ma mère aimait beaucoup manger son taboulé. Je trouvais ça assez bizarre. Avec des feuilles fraîchement cueillies, bien sûr, de poivrons. Voilà.
Merci, Kamal.
Je t'en prie. Merci à toi.
Vous venez d'écouter Kamal Mouzawak, épisode 18 de la saison 4. Pour goûter aux produits et cuisines proposées par son crew de producteurs et de cuisinières, rendez-vous au Souk El Tayeb et chez Toilette à Beyrouth et bientôt à Paris. Pour en savoir plus, soukeltayeb.com. Vous pouvez écouter les précédents épisodes sur votre appli podcast préférée ou sur le site apoil-lepodcast.com et n'oubliez pas de vous abonner au compte Apoil Podcast sur Instagram. Cet épisode a été monté par Garance Munoz, musique par Santiago Walsh. À dans 2 semaines pour un nouvel épisode d'À Poil.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at yoquierodineropodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.